Parfait. C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labrou et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on part en guerre, ou plutôt on va sur la ligne de front essayer de comprendre pourquoi, comment pensent les gamers, qu'est-ce que c'est que cette histoire de guerre des consoles.
Salut Camille. Thibaut, salut tout le monde. Eh ben, on pourrait dire que c'est vieux comme le monde, mais ça serait déconnant. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est plus vieux que les réseaux sociaux et que ça n'est pas prêt de s'arrêter. Depuis la naissance de la Atari Video Computer System, la VCS en 1977, on a connu la Battle Super NES vs Mega Drive, ça on l'a connu nous. La Nintendo et Sega étaient les seuls en place et puis des acteurs encore plus solides sont entrés dans le game avec l'arrivée de la Sony PlayStation, de la Microsoft Xbox. Et depuis, c'est une bataille ininterrompue.
Ouais, à ma gauche, la PlayStation 5 de chez Sony. À ma droite, la Xbox X de Microsoft. Et au milieu du ring, eh bien, des centaines de milliers de fanboys prêts à tout pour défendre leur communauté de joueurs. PlayStation X versus Xbox, Nintendo versus Sony. Bienvenue, effectivement, dans une baston qui dure depuis que le jeu vidéo existe quasiment et prend aujourd'hui, eh bien, des proportions impressionnantes hein, sur les réseaux sociaux. On débriefe ensemble ce matin, on fait le point et on va tâcher de comprendre qu'est-ce qui se joue. Effectivement, tu l'as dit Camille, la guerre des consoles, elle date d'il y a déjà bien longtemps.
Voilà, c'est arrivé. Alors c'est comme tout, hein. Il y a des petits acteurs qui se sont introduits, qui ont commencé, et puis des acteurs sérieux se sont mis en place, ont commencé à vraiment batailler sur le sujet. Et d'ailleurs, en venant, j'écoutais cet épisode de la dernière saison de Guerre de Business, podcast qu'on adore, business qui compare toujours deux marques très fortes. Et c'est là que j'ai découvert, il y a un quart d'heure, puisque je ne suis pas un gamer à la base, que Nintendo et Sony travaillaient main dans la main pendant 2 ans au début des années 90, 89 à 91, sur le lancement de la PlayStation. Ça aurait dû être une console Nintendo. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, on n'y connaissait rien.
Oui, parce que de nos jours, la guerre des consoles, elle a quand même bien changé. Hein. On assiste plus trop à des règlements de compte publics entre constructeurs de consoles, mais ça n'a pas toujours été comme ça depuis les années 80. Et le début des années 90, eh ben, la guerre des consoles, c'est pas nous qui avons inventé ce terme, il s'est imposé de lui-même, on va dire, et il a imprégné le marché des vidéos très fortement. Intense rivalité entre un certain nombre d'acteurs, Sega, Nintendo, pour la domination des marchés, notamment des consoles. Dans les années 90, c'est ouvertement la guerre, c'est la guerre publique, hein, ça se passe par communiqué de presse, par annonce de consoles, et c'est une guerre qui est clairement assumée par les constructeurs de consoles eux-mêmes. Et aujourd'hui, aujourd'hui on est en 2021 et cette guerre, elle perdure. Alors les davantages, on va le voir du côté des fans hein, qui s'amusent à se pourrir la vie en ligne, hein, c'est vraiment le grand jeu. Mais cette rivalité, elle a peut-être pris un climax. On l'a retrouvé à nouveau avec, eh bien, l'arrivée de la Xbox X sur le marché. Il y a eu une grosse annonce hein, en 2000 où on a retrouvé à nouveau, eh bien, cette guerre entre la PlayStation 5 et la Xbox X.
2020. Donc il y a eu une grosse annonce et il y a eu le lancement de PlayStation, hein, puisque bien sûr il s'arrange toujours pour sortir au même moment, si ce n'est un peu avant, mais l'autre est déjà dans les tuyaux. La PlayStation 5, franchement, moi qui suis pas gamer, ça m'a saoulé d'entendre tout ça. Et pour autant, j'ai quand même observé ce qui s'est passé. En octobre 2019, Sony a annoncé officiellement la venue prochaine de sa console. Donc on t'annonce que dans un an ou plus, il y a une console qui va sortir. T'imagines la durée du lancement. La PlayStation 5, il y a moins d'un an, elle était enfin là à portée tous en novembre 2020. Elle était possible en précommande seulement. Et depuis, la production, elle a traîné. Il y a eu le confinement. Les consoles ne sont pas sorties. Les gens ont attendu, ont dormi devant les magasins. Il y en a que très peu qui ont pu l'avoir. Des gens en ont fait gagner sur les réseaux alors qu'ils ne les possédaient pas. Et puis, un terme que j'ai appris ce matin, les scalpers. C'est des gens qui ont acheté à l'époque très cher des stocks de PlayStation 5 qui aujourd'hui se caractérisent comme une vraie bourse. Et j'ai appris aujourd'hui qu'il y a trois jours, le stock a chuté, la bourse a chuté de 30%. 20% de la valeur de ces consoles qu'ils avaient archivées parce que c'est reparti. Donc là, on a mis 2 ans entre l'annonce et la disponibilité plus ou moins pour tout le monde d'une console.
Ouais. Et la guerre des consoles entre fans de Xbox, de PlayStation, de Nintendo, elle prend sans aucun doute sa source quand même dans l'histoire du jeu vidéo global. C'est important de comprendre ce qui se trame depuis maintenant plus de 30 ans hein, sur le rayon des jeux vidéo. Allez effectivement écouter ce très bon podcast Guerre de Business, une saga en 5 ou 6 épisodes autour de la guerre entre PlayStation et Nintendo. C'est absolument passionnant. Et le comportement des marques commerciales a peut-être créé le contexte de communautés qui sont habituées à se taper dessus. C'est fort probable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est assez violent et sanglant. Avec au milieu des protagonistes, les gamers qui sont clairement une communauté qui est suractive et extrêmement engagée sur les réseaux sociaux. C'est spectaculaire. On peut peut-être déjà faire un petit tour sur les tailles de communauté en ligne des différentes marques de consoles et notamment PlayStation et Xbox.
Je voulais te rajouter un truc juste avant. J'ai des chiffres pour toi qui vont t'intéresser et un truc que j'ai entendu aussi dans Guerre de Business qui est super intéressant. Les années 90 ont transformé le jeu vidéo qui était à destination des enfants, des plus jeunes, vers un public très adulte. Donc forcément, ça a renforcé aussi ce sentiment de guerre, d'appartenance. Les consoles étaient beaucoup plus chères, donc on avait besoin de montrer que la nôtre était la meilleure. Et ça, ça a eu lieu à ce moment-là. C'est devenu 100% adulte, là où c'était 100% enfant.
Ouais, c'est possible aussi. Hein. Alors pour revenir aux communautés, en termes de taille de communauté en ligne, c'est clairement PlayStation qui gagne la guerre aujourd'hui.
Exactement. Alors donc tu peux regarder sur Facebook et sur Insta, vu que tout ça est très vieux, il y a des grosses pages Facebook. Si je regarde PlayStation vs Xbox, PlayStation, 38 millions de fans sur
Facebook.
C'est énorme,
38 millions, c'est quand même faramineux. Ouais.
C'est ouf. Ouais. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux, donc ça montre quand même, elles étaient déjà en guerre quand les réseaux sociaux sont apparus, ça montre déjà la force de ces deux communautés. Donc 21 millions pour Xbox, c'est déjà énorme. Et après, tu as, si tu regardes Instagram par exemple, là tu as carrément plus du double pour PlayStation, tu as 28 millions d'abonnés sur la page PlayStation, mais tu as aussi les pages pays qui sont énormes, forcément, là, ils se sont pas posé la question. Ils ont décliné PlayStation France, 376 000 abonnés. Sur Insta, Xbox Monde, c'est 12 millions d'abonnés. Xbox France, c'est 232 millions d'abonnés. Et puis après, tu retrouves aussi des micro-pages hein, sur Facebook, par exemple, Xbox UK, qui a 2 millions d'abonnés. C'est assez ouf sur le volume. Et puis les pages France, pareil, en ont énormément.
Ouais, et puis alors, évidemment, la guerre, elle se passe aussi sur Twitter, même beaucoup sur Twitter. 22,6 millions d'abonnés pour le compte officiel PlayStation, c'est quand même ouf. Et puis sur Xbox, pour Xbox, le compte Twitter, c'est 16,6 millions d'abonnés. Donc quand on vous parle de communauté importante, on peut même parler de horde, hein, parce qu'il y a vraiment une activité très très forte. Alors on l'a dit, il y a toujours un climax dans la baston, c'est le moment des lancements de consoles, c'est ce qu'on a vécu dernièrement avec Xbox X face à la PlayStation 5. C'est fascinant de plonger dans ce fandom. Hein. Qu'est-ce que c'est le fandom ? C'est cette espèce d'art de vivre qui lie un fan de marque et un fan à la marque. C'est assez étonnant. C'est un terme anglais qui qualifie une sous-culture. Hein. Clairement, on est dans une culture à part. Et en gros, ce sont des gamers qui pensent, qui vivent, qui s'habillent PlayStation. Et ça me fait tout de suite penser, on les a vus, hein, vous les avez vus vous aussi dans vos feeds, qui n'a pas déjà vu passer, tu vois, les gâteaux d'anniversaire en forme de PlayStation. Ça, c'est clair, on est dans du fandom à fond, les tables basses en do-it-yourself, pardon, c'est mon téléphone qui sonne, les tables basses en do-it-yourself avec des détails inspirés de la Nintendo Switch, par exemple, tout ça, on est clairement dans le fandom et c'est spectaculaire, il y a finalement assez peu d'univers où le fandom est aussi poussé. Hein.
Oui, et d'ailleurs le fandom, ça me fait penser, hein, toutes ces pages, on découvre qu'on est un peu un geek quand on se retrouve sur des sites comme Wikifandom, parce que t'as voulu savoir pourquoi la robe d'Harry Potter était de telle couleur. Et là, tu plonges dans un univers qui est carrément ouf, où t'es sur un Wikipédia parallèle, mais qui va parler tellement dans le détail. Et pour les consoles, c'est exactement pareil. Tu vas aller jusqu'à la carte graphique, jusqu'à la puce par qui elle a été fabriquée, imaginer quelle année de production, combien, et tu rentres vraiment dans un univers, mais complètement parallèle.
Alors, en note de cet épisode, hein, on vous balance quelques liens, notamment vers le fameux forum Reddit, où là, vous allez pouvoir voir un peu de fandom de PlayStation, notamment récemment, c'est vrai que c'est ahurissant. Et ces fans, eh ben au milieu, ils ont leurs armes aussi. On l'a dit, c'est une guerre. Et parmi l'arme ultime de destruction massive du gamer troll, on va dire le même évidemment, qui est extrêmement maîtrisé. Et là, pareil, avalanche de contenu, hein, que ça soit sur Twitter, sur Instagram, à peu près partout. Hein.
Et c'est marrant, tu fais le lien entre gamer et troll. C'est un lien qu'on a assez souvent fait finalement, sans vraiment le dire, parce qu'on n'a jamais parlé vraiment des gamers consoles, mais il faut savoir, quand on a remonté l'histoire des trolls, les trolls sont souvent nés, les communautés de trolls, sur les forums de jeux vidéo, le fameux forum 1225 jeux vidéo, où c'est des gens qui sont très actifs, qui sont habitués depuis la nuit des temps à se battre entre eux contre leur console, et puis ça a donné toutes ces dérives de gifs, de forums, de bagarres, ouais, de vidéos.
Ce qu'il faut être clair, c'est que c'est, là je mets des guillemets, trolls ou c'est gamers, clairement, ils ont aujourd'hui insufflé une sous-culture au web qui a des répercussions à peu près partout. Le même, évidemment, c'est une émanation, on va dire, notamment de ces sous-cultures-là.
Qui l'ont beaucoup utilisé, sans pour le créer, ils l'ont beaucoup, beaucoup utilisé.
Exactement. Allez, juste un compte, un endroit où se rendre compte de l'ampleur de tout ça, Instagram, tu tapes le hashtag Xbox Memes, 284 000 publications, c'est quand même faramineux, avec au milieu, eh bien, vous trouvez tout. Hein. Vous trouvez du même pro-Xbox, et puis du même aussi anti-Xbox, parce que effectivement un fan de console, un gamer hardcore, eh bien il se définit aussi par sa capacité à détester le camp adverse, ouais, évidemment, et pour ça, eh bien on trouve, et ça je trouve ça assez fascinant, des tonnes de hate page, et ça des deux côtés, que ça soit chez Xbox ou que ça soit chez PlayStation. Et ça, c'est quand même assez fascinant. Qu'est-ce que c'est une hate page? Eh ben, c'est toi, moi, qui montons un compte anti une autre marque, anti Xbox.
T'es déjà fan du concurrent et tu
pousses ton engagement de marque jusqu'à prendre la défense et à produire du contenu avec récurrence, à être créateur de contenu anti Xbox ou anti PlayStation.
On pourrait dire que c'est un nurshi finalement. Ça reste un nurshi de contenu. Donc les nurshi, pour ceux qui se rappellent pas, c'est des pages de gens qui chinent des contenus sur une thématique spécifique, et là c'est clairement la haine gentillette puisque c'est quand même des ados boutonneux qui se bagarrent de telle ou telle console, et du coup ils créent du contenu. Il y a des contenus absolument fous, hein. Il y a des vidéos de plus d'une heure anti Xbox, et c'est très drôle.
Alors moi j'ai une grosse question, Camille, une question qui me taraude depuis qu'on creuse sur ce sujet, mais pourquoi? Que se passe-t-il réellement dans la tête d'un hardcore fanboy? Pourquoi je suis prêt à passer mes journées à troller le compte de PlayStation quand je suis fan d'Xbox? Pourquoi je suis prêt même carrément à créer un compte Instagram anti-PlayStation? Je ne comprends pas. Et donc, du coup, j'ai creusé, hein, et je suis tombé sur cette étude de la psychologue, le docteur Abigail Clark. C'est assez passionnant. Alors, il y a beaucoup de choses, hein. C'est une longue étude, mais deux, trois petits points intéressants. Elle précise et elle explique que les êtres humains, on est des créatures sociales, ça on le sait, et on le défend ici tous les matins en social media, et que notre besoin d'appartenance, il est ancré dans notre cerveau avec nos instincts de survie. En gros, ce qu'elle explique, c'est notre nature sociale, c'est ce qui nous a permis de survivre. On avait besoin d'être en groupe pour survivre. Donc du coup, c'est très instinctif, hein. Ça, c'est intéressant. Elle dit, c'est à partir de ces groupes sociaux que nous développons un sentiment d'identité. Individuellement du groupe, nous individus, on peut pas vraiment se constituer. On a besoin d'être dans un groupe pour développer notre identité. Et que cette identité, elle se construise autour d'une marque, elle ne trouve pas ça du tout aberrant, elle. Elle explique que, finalement, la logique, elle n'est pas si éloignée que de construire son identité autour d'un groupe géolocalisé. Les Lyonnais, les Sartois, les Hauts-Savoyards, dans mon cas. Elle explique aussi que il y a rien de plus, c'est pas plus aberrant de constituer son identité autour d'une marque de jeux vidéo que d'une équipe de football, par exemple. En vrai, et c'est vrai que quand on y réfléchit bien, c'est exactement proche. Et d'ailleurs, on retrouve les mêmes comportements d'extrême. Il y a des hooligans aussi dans le gaming
et qui vont pas voir le match.
Et qui vont pas voir le match, parfois même qui ne jouent pas. Et du coup, c'est vraiment étude passionnante. Elle explique aussi que le fanboy, il a des devoirs, bien sûr, parce qu'il est fan de, donc il défend les couleurs de sa marque, Xbox ou PlayStation, mais il a aussi et surtout des droits. En tout cas, c'est sa perception. Les fanboys, sont difficiles à gérer. On le sait, nous, on a des marques qui sont des vrais love brands. Et le fanboy, l'amoureux de marque, il est complexe à gérer. Pourquoi? Parce qu'il se comporte toujours comme si la marque lui devait personnellement plus. plus en échange de ses années de loyauté. Et ça, c'est vraiment intéressant et assez à prendre en compte quand on est un marketeur. C'est un peu comme une famille. On attend quelque chose de cette communauté. Ce qui peut expliquer que les fanboys, ils attendent plus. Ils attendent une sorte de récompense pour leur allégeance. Et ça, je trouve ça assez fascinant.
C'est beau, hein.
Et on
c'est
voit bien aussi comment on se rapporter à d'autres milieux en social media, ça a des implications.
Ton étude, là, les premiers mots m'ont fait assez peur et m'ont fait penser au film La Vague. Tu sais, cette expérience sur le totalitarisme. C'est à peu près ça, l'appartenance à un groupe, la création d'un mouvement. Mais c'est vrai, hein, c'est hyper fort et c'est pas pour autant que c'est idiot. Je veux dire, ça peut être très bon enfant. Souvent, c'est moqueur, mais ça débouche pas sur des vraies violences. Par contre, c'est clair qu'il y a un amour indéniable. Est-ce que t'as regardé un peu ce qui se passait? Alors, ce qui est ouf, je me coupe, je m'auto-coupe.
Tu peux, vas-y. Hein.
ce qui est assez ouf, c'est que bien sûr, t'as ces ultras de gauche ou de droite, de PlayStation ou de Xbox, mais t'as aussi énormément de gens qui essayent au milieu de tout ça
de faire la médiation,
de faire de la comparaison, et on peut regarder partout, on peut regarder sur Twitch, on n'en a pas parlé, j'imagine que sur Twitch il y a des milliards de sujets sur les consoles. Moi j'ai regardé pas mal sur YouTube ce matin et je suis tombé, bon alors eux forcément hein, ils sont neutres, c'est le magazine jeux vidéo, je suis tombé là-dessus et ça va très loin, ça va sur des vidéos où ils mettent les deux consoles côte à côte, les deux dernières, avec le même jeu au même moment pour faire une analyse ultra poussée, et t'as toujours quand même ces petits haters en bas qui disent que la console est surélevée, donc elle prend plus l'air, du coup celle-ci c'est normal qu'elle soit plus performante, et t'as même un truc, ça j'ai trouvé ça, moi de mon point de vue c'est complètement dingue, t'as un type, donc là c'est encore jeu vidéo, je crois que c'est jeux vidéo, je mettrai le lien. Il va comparer les studios d'édition des deux consoles. Donc en fait, t'as Sony, il a X 40-60 studios d'édition qui travaillent pour lui, qui ont fait tel jeu. Pareil pour Xbox. Et il va noter chaque studio par rapport à la performance d'un jeu. Et au final, ça fait une note globale. C'est un travail ultra minutieux. Mais t'as quand même certains hardcore fans qui vont dire « Merci, c'est intéressant. Quelques erreurs de stats, notamment sur le nombre de studios qui feraient baisser la moyenne. Ça peut baisser l'écart type. »
Mais tu vois, ça, c'est très intéressant parce que
c'est
justement...
C'est intellectuel.
Parce que justement, la psychologue dont je parlais tout à l'heure, Abigail Clark, elle parle notamment de dissonance cognitive chez le fanboy. C'est-à-dire, le fanboy, tu ne peux pas faire appel à sa raison. Quoi qu'il advienne, il n'est pas en capacité, il ne peut pas cognitivement penser différemment de son schéma de pensée. Elle parle vraiment de schéma de pensée. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'il constitue en tant qu'individu. C'est un peu comme une religion. C'est très difficile d'argumenter avec quelqu'un qui a une conviction religieuse et de lui dire bah non, c'est pas ça.
Ou alors c'est pas que ça.
C'est pas que
rien
ça.
Rien que ça déjà.
Exactement. Et comme il n'est pas toujours en capacité de défendre son point de vue de façon objective, le fanboy, il a souvent recours à des stratagèmes plus violents. Clairement, attaque personnelle, trolling, violence verbale, etc. Et là, la psychologue Abigail Clark, elle parle d'esprit de meute. Et c'est très intéressant. Elle dit, pensez, et elle explique en disant, pensez-vous à la façon dont vous réagissez lorsque quelqu'un critique un membre de votre famille ou un ami proche, par exemple. Et bien forcément, vous devenez...
Par exemple, ta PlayStation.
Vous devenez instantanément, sur la défensive. Vous attaquez souvent l'autre. C'est un élément de réponse, l'attaque. Eh bien, c'est physiologiquement logique lorsque vous pensez que les groupes sociaux, ils font partie intégrante de notre survie en tant qu'espèce. Elle revient à ce principe-là. Donc voilà, physiologiquement, les gamers trolls ne peuvent pas faire autrement. C'est dans leur ADN, c'est du self-défense et ils protègent la meute.
Et puis, on sent cette... on va dire cette violence dans la réponse, dans l'argumentation ou dans l'engagement, qui finalement est assez normal. Si t'avais une battle entre instituteurs du privé et instituteurs du public, ou entre fans de pâte à modeler, ça serait pas la même chose. Là, les gamers, ils sont habitués, et on le sait depuis très longtemps, à des jeux ultra violents, ultra précis.
Je suis pas sûr de ça. Moi là-dessus, j'émets des gros doutes.
Ça, je veux dire, quand tu vois des mèmes où tu butes un fan d'une autre console à coups de pistolet, c'est quand même...
Moi, j'émets des gros doutes sur la nature du jeu vidéo, je pense même qu'il est exclu. Je pense que, par contre, ce qui pousse à vraiment des comportements parfois qui sont dans la violence, eh bien, c'est peut-être plutôt l'esprit compétiteur de ces différentes communautés. Et puis aussi, sans doute, la nature historique de ces rapports de force qui ont été pendant longtemps entretenus par les marques elles-mêmes.
Ouais, c'est clair.
Et maintenant, elles essayent de faire, par contre, machine arrière. Et ça, c'est très étonnant. C'est très intéressant aussi à voir. Et notamment, dernièrement, Microsoft et PlayStation qui ont mis de l'eau dans leur vin, on imagine très bien qu'au bout d'un moment, c'est embarrassant aussi d'être associé à ces communautés-là. Récemment, le patron d'Xbox, hein, qui s'appelle Phil Spencer, il a expliqué et à plusieurs reprises à quel point il n'aimait pas l'idée de ces guerres de consoles et qu'il fallait y mettre fin, notamment entre Xbox et PlayStation. Allez, petite citation, il explique « Nous avons des fans qui ont les deux consoles. » Bah oui, il y a ça aussi, évidemment. Et nous devons respecter cela. Les gens viennent sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent s'engager avec les marques qu'ils aiment. Ils recherchent des marques pour amplifier leurs valeurs communes et on préférerait de loin adopter une démarche plus collaborative, plutôt que compétitive. Donc en gros, esprit plus cool, apaisement. Voilà.
C'est magnifique.
Et le 16 juillet, tiens, le compte Twitter officiel de Xbox a même carrément décidé de répondre aux trolls de PlayStation hein, qui viennent les harceler non-stop. Hein. Ça doit être un dur boulot hein, d'être CM.
Mais surtout que ça doit être une récurrence, ça doit être vraiment un peu toujours la même chose. Quoi. Quand on vient te taquiner sur chaque sortie, tu sais que tu vas avoir autant de ça que de commentaires positifs.
Ah, là, tes ceintures noires d'empathie et de calme. Et donc, la marque Xbox expliquait, chacun joue avec ce qu'il veut, ce qui compte, c'est de s'amuser. Donc vraiment, on est revenu aux fondamentaux. On veut plus de cette guerre-là. Ce tweet 184 000 likes. Donc il semblerait que le message passe petit à petit. Et Xbox et PlayStation commencent à projeter quelque chose d'intéressant, qui est celui d'une grande communauté de gamers réunis. Et on le sent, ils œuvrent collectivement là-dessus. Donc par exemple, on a vu des choses très étonnantes qu'on n'a pas vues précédemment. C'est PlayStation qui souhaite une bonne sortie à Xbox. Xbox qui souhaite une bonne sortie à PlayStation. Quand on connaît l'historique de ces marques et de leur communauté, c'est vrai que c'est assez étonnant. Et ben voilà, donc peut-être l'idée, c'est de créer une grosse communauté réunissant plusieurs familles et qui serait peut-être contre le reste du monde, du coup.
C'est quand même très très beau hein, tout ça. Hein. Et si je peux, je pense qu'on a à peu près tout dit ce qu'on avait à dire. Maintenant que les familles sont réunies, que plus personne ne veut se faire la guerre, ce que je ressentais en analysant tout ça, c'est que toutes ces consoles, finalement, elles nous rattachent à un moment de vie, un souvenir, bien souvent les fans de PlayStation ou d'Xbox en ont une il y a 10 ans, quand ils ont eu 10 ans ou quand ils ont eu 15 ans, ils l'ont eu toute leur vie, ils sont passés à la suivante, ça nous rattache à des souvenirs, à un jeu, à des images, même à des odeurs, à des trucs quand tu jouais avec ta mère faisait la cuisine, et du coup c'est pour ça aussi que ce sentiment d'appartenance il est très fort et que la console elle a une vraie place dans la vie et que tout le monde a eu ou a connu ou a joué à une console.
Est-ce que toi t'as eu aussi ton gâteau d'anniversaire Xbox?
Ah non
quand même toi
pas.
Non.
Alors moi voilà. Mes parents, tu sais, justement mon père était instituteur, donc il préférait que j'allais courir dans l'herbe, mais j'ai encore plusieurs consoles vintage à la maison qui attendent leur belle étagère un jour dans le salon.
Voilà les amis, on serait ravis d'échanger avec vous. Est-ce que vous aussi, vous prenez part à cette grande guerre des consoles? Est-ce que vous trouvez que tout ça, finalement, est assez irrationnel, mais intéressant à étudier? On serait ravis d'en échanger avec vous sur les réseaux sociaux, @supernatif.
Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, sur le forum 1225 aussi de jeuxvideo.com, partout où vous voulez, #supernatif, @supernatif, venez discuter avec nous.
Et merci à vous d'écouter ce podcast. N'hésitez pas à le partager à une pote, à un pote. Et puis, si vous nous écoutez sur Apple Podcast, on compte sur vous pour nous balancer 5 étoiles, nous laisser un petit com sympa. Ça nous fait plaisir. Puis de deux, clairement, ça nous donne un coup de boost dans l'algorithme de recommandation d'Apple Podcast.
Voilà. Et si vous avez des sujets un peu tordus comme ça, un peu originaux,
n'hésitez pas à les proposer.
Voilà.
Big up à Yvan, hein. D'ailleurs, Yvan qui nous a proposé ce sujet. Merci à toi.
Super content d'avoir digué là-dedans. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous et bon week-end.
Salut tout le monde. Ciao.
Ciao.